Chapitre 18. À Saint-Lazare. Transféré à la prison de Saint-Lazare sur l'ordre de M. de Fourmel, Mlle Rumigny avait été placée dans le quartier des prévenus. Le juge d'instruction, qui, malgré sa sévérité, était loin d'être un homme inhumain, avait recommandé, ainsi que nous l'avons dit, que la prisonnière fût entourée de tous les soins nécessaires. Il avait également ordonné de la tenir au secret le plus absolu. Sauf le médecin de l'établissement et les sœurs, personne ne devait arriver jusqu'à elle. Afin de suivre complètement ses instructions, le directeur de la maison d'arrêt avait fait installer sa nouvelle pensionnaire au troisième étage, dans une des cellules de la section des nourrices. Cette cellule, où on renfermait d'ordinaire deux ou trois détenus, était suffisamment grande. Elle recevait air et jour par une large fenêtre grillée qui donnait sur cette cour, dans laquelle on voit encore ombragé par quelques arbres maladifs, le lavoir où, selon la légende créée par Eugène Sue, Fleur de Marie lessivait son linge. Le plancher de cette pièce était usé à force d'avoir été lavé. Tout son ameublement se composait d'un lit meilleur que celui de bien des pauvres gens, d'une table de bois, de deux chaises de paille et d'un poêle de faïence dont le tuyau noir tranchait sur la blancheur glaciale des murs peints à la chaux. C'était là, dans cette chambre sordide, qu'allait passer de longs et douloureux jours la jeune fille dont l'enfance avait été entourée de soins et de bien-être. C'était là qu'allait souffrir, sans une main amie pour serrer la sienne, sans une voix affectueuse pour lui murmurer « courage », celle que l'amour avait perdue. Heureusement encore que, peu d'instants après l'arrivée de Marguerite, le greffe de la prison avait reçu d'un anonyme, à l'adresse de Mlle Rumigny, une somme de 100 francs. On avait pu mettre la pauvre femme au régime de la pistole, c'est-à-dire lui donner du feu, du linge et des draps, ce que le directeur de Saint-Lazare, hâtons-nous de le dire, eût fait d'ailleurs gratuitement, cela est certain, par pitié et en dépit des règlements. Car l'état de Marguerite était grave. À la suite des émotions violentes qu'elle avait éprouvées et de la terreur qu'elle avait eue au dépôt, terreur dont la conséquence, la mort de son enfant, était terrible, la malheureuse mère avait été frappée d'un transport au cerveau. Le docteur craignait une fièvre cérébrale que devait encore rendre plus dangereuse les conditions physiologiques toutes particulières dans lesquelles se trouvait la jeune femme. Il ne répondait pas d'elle. Pendant 15 jours, en effet, Mlle Rumigny fut en danger. Malgré les soins intelligents et dévoués de la sœur qui la gardait, elle faillit mourir. Le directeur de Saint-Lazare, que M. Adolphe Morin était venu voir, avait été touché de l'indulgence et de la bonté de ce parent. « J'ignore, lui avait dit le neveu de M. Rumigny, si ma cousine est coupable. Ce qui arrive est pour nous tous un irréparable malheur. Mais ce que je ne veux pas oublier, c'est qu'elle est la fille d'un homme qui a été pour moi un second père. Ayez donc pour elle, je vous prie, autant d'égards que vous le permettent vos fonctions. Ne la laissez manquer de rien. Je me charge de tout. Qui sait, la malheureuse n'a peut-être été qu'un instrument inconscient entre les mains du misérable qui l'a abandonnée. » Et l'excellent M. Morin, c'est ainsi qu'on l'appelait à la direction et au greffe, venait presque chaque jour prendre des nouvelles de la prisonnière. Il avait fait, de plus, une chose qui était bien de nature à lui mériter la sympathie de tous et la reconnaissance de Marguerite. Il avait arraché son enfant à la fosse commune. Grâce à lui, le petit corps reposait au cimetière Montmartre sous des touffes de roses. Lorsqu'on lui parlait de cette bonne action, il répondait en rougissant. « La pauvre mère pourra au moins aller prier sur la tombe de sa fille lorsqu'elle sera mise en liberté. Personne ne désire plus vivement que moi la manifestation de son innocence et son retour à la santé. » L'un des vœux de cet ami si dévoué devait s'exaucer plus rapidement qu'on ne l'espérait. La jeunesse eut enfin raison de la maladie. Le médecin de Saint-Lazare affirma un matin que Mlle Rumigny était sauvée. Mais si le corps retrouvait des forces, l'âme restait brisée. Lorsque Marguerite put se rendre compte de ce qui s'était passé depuis cette sinistre soirée où elle avait voulu mourir, lorsqu'elle se souvint, son premier cri avait été « Ma fille !» de cette nuit terrible où l'épouvante lui avait enlevé la raison, elle tomba dans un si profond désespoir que ceux qui la visitaient se demandaient si la mort n'eût pas été pour elle une délivrance. La malheureuse restait immobile et muette des journées entières, insensible aux douces paroles de la sœur, sa gardienne, qui lui offrait tous les secours de la religion. On ne la voyait tressaillir que lorsque les cris des enfants, nous avons dit que sa cellule était dans la section des nourrices, venaient jusqu'à elle. Alors, elle pleurait. Informée par le directeur de Saint-Lazare que la prévenue était en état de répondre à la justice, M. Le Fourmel, par humanité, attendit encore quelque temps. Puis un jour, au lieu de la faire amener à son cabinet, il vint la trouver dans sa cellule. Il était seul, ce qui n'était pas légal, car tout interrogatoire doit être fait en présence d'un greffier, afin que les moindres réponses du prisonnier soient consignées dans un procès-verbal. En voulant que les choses se passent ainsi, le législateur, nous le pensons du moins, n'a pas eu pour seul but de mettre le prévenu dans l'impossibilité de nier le lendemain ce qu'il avait dit la veille. Il était plus loin encore. Il a voulu défendre le prévenu contre lui-même. On conçoit en effet qu'entre les mains d'un magistrat habile, qui l'interroge dans la solitude de sa cellule, le prisonnier s'abandonne aisément. Le ton avec lequel on lui parle peut lui faire oublier qu'il répond aux représentants de la loi. Les promesses peuvent le séduire, le tour de la conversation l'entraîner à des explications que le juge est libre de prendre pour des aveux. La loi, plus digne, ne veut ni de cette lutte, ni de ces pièges. En Angleterre, on va plus loin encore. L'accusé ne doit pas même être interrogé. En voyant entrer M. de Fourmel, Mlle Remigny ne le reconnut pas tout d'abord. Mais au son de sa voix, elle se souvint, et son visage, déjà si pâle, devint livide. « Mademoiselle, lui dit le juge d'instruction, il ne tient qu'à vous d'en terminer rapidement avec la détention sévère à laquelle j'ai dû vous soumettre. C'est de me dire la vérité tout entière. »«
La vérité ? » répondit tristement la jeune femme. « À quel sujet ? Je ne sais rien. »
Vous ignoriez que votre père dut venir à Paris ?
Il n'avait pas répondu à mes lettres. Je n'espérais plus le voir.
Monsieur Remigny savait où vous demeuriez ?
Je le lui avais écrit.
Vous lui avez fait part de ce moyen qu'emploie Monsieur Tissot pour rentrer à toute heure sans avoir besoin de dire son nom au concierge de votre maison ?
Jamais, monsieur.
Comment l'aurait-il connu ?
Je n'en sais rien.
C'est cependant vous qui avez indiqué à Balterini ce même moyen.
Oui, je l'avoue.
Croyez-vous que ce soit Balterini qui ait fait connaître ce signal à M. Remigny ?
Robert ?
Oui, Robert Balterini, puisque c'est lui qui a frappé votre père. Vous comprendrez que M. Remigny n'a pu s'introduire secrètement rue Marlot que grâce à cet homme ou grâce à vous. Aucun des locataires de la maison ne connaissait M. Remigny et n'était intéressé à le faire disparaître. Une pensée terrible traversa sans doute en ce moment l'esprit de Marguerite, car sa pâleur devint effrayante, et elle bégaya en sanglotant.
« Oh, laissez-moi, monsieur, laissez-moi, je ne vous répondrai plus !»
M. de Fourmel, à qui cette émotion nouvelle de la prisonnière n'avait pas échappé, insista cependant. « Vous savez tout au moins où est Balterini ?»«
Non, monsieur, je ne sais rien, je ne dirai rien !»
gémit la malheureuse. « Vous comprenez, termina le juge d'instruction, dans quel sens je dois interpréter votre refus de répondre. Vous réfléchirez, je l'espère, aux conséquences fort graves que ce système peut avoir pour vous. Je reviendrai. » Mademoiselle Remigny laissa partir le magistrat sans ajouter un seul mot. Et lorsqu'elle se vit seule, elle se jeta à genoux en murmurant.
« Mon Dieu, sauvez-le ! Que seul je sois puni !»
Quelques jours plus tard, M. de Fourmel revint à Saint-Lazare, accompagné cette fois de son greffier. Mais il essaya vainement de faire parler Marguerite. Elle s'en tint aux réponses sommaires qu'elle lui avait faites précédemment. On eût dit que la jeune femme s'était irrévocablement tracée une ligne de conduite, dont nulle insistance, nul piège, nul détour ne pouvait la faire dévier. Sans se lasser, le magistrat fit 3 nouvelles tentatives, à des intervalles irréguliers, mais sans plus de succès. Au bout d'un mois, il était aussi peu avancé que le premier jour. « Mademoiselle, dit-il à Marguerite au moment de se séparer d'elle pour la dernière fois, il est de mon devoir de vous avertir que votre refus de répondre est, pour moi, un aveu tacite de votre complicité. Vous pouvez choisir un défenseur, car je vais demander votre envoi en cour d'assises comme complice de l'assassinat de votre père. »«
Soit, monsieur,
répondit à demi-voix la prisonnière, avec un accent de résignation impossible à rendre. Vous n'ignorez pas que le complice d'un crime encourt la même pénalité que l'auteur principal d'un crime. Songez qu'il s'agit, pour Balterini, d'un meurtre avec guet-apens, et pour vous, n'a pas récide.
Je n'ai rien à vous dire. Faites de moi ce que vous voudrez. »
Convaincu qu'il n'obtiendrait rien de la prisonnière, M. de Fourmel se décida à se retirer. Cependant, il ne sortit de Saint-Lazare qu'après avoir levé le secret sous le régime duquel était Mademoiselle Rumigny depuis son entrée dans la prison, secret dont le jeune juge d'instruction n'avait pas manqué de renouveler l'ordonnance chaque 10 jours, ainsi que le veut l'article 613 du Code d'instruction criminelle, article trop peu respecté. En rentrant au palais, fort ennuyé de son échec, M. de Fourmel reçut la carte d'un homme dont il avait certes à peu près oublié le nom, William Doe. Si mal disposé qu'il fût, il ordonna d'introduire l'Américain auquel il ne manqua pas d'offrir un siège. « Monsieur, dit l'étranger pour répondre au geste du juge d'instruction qui l'invitait à lui faire connaître le but de sa visite. Vous n'ignorez pas, sans doute, que sans moi, Mademoiselle Rumigny ne serait pas entre vos mains. » « Je sais, en effet, monsieur, répondit M. de Fourmel, avec quel dévouement vous vous êtes jeté à l'eau pour la sauver. C'est là un acte de courage dont la justice doit vous être reconnaissante. Je vous remercie, mais si je me permets de vous rappeler ce fait, ce n'est pas pour en être loué. À ma place, tout homme de cœur et sachant nager en eût fait autant. C'est pour m'excuser de m'intéresser à cette jeune fille. » Le magistrat s'inclina comme pour exprimer qu'il trouvait ce sentiment tout naturel. William Doe poursuivit. « Permettez-moi alors de vous parler sans détour. »«
Faites, monsieur. »«
Mademoiselle Rumigny est à Saint-Lazare. La croyez-vous donc complice de la mort violente de son père ? Pardonnez-moi cette indiscrétion. » »«
Je vais vous répondre avec une égale franchise.
Oui, Mademoiselle Rumigny est complice de ce crime dont Balterini est l'auteur principal. Les faits me sont mathématiquement démontrés, aussi bien par la correspondance que j'ai saisie que par le mutisme de cette jeune femme. Je devrais presque dire par ses aveux. »
Vous ne pourriez pas en conséquence retarder la marche de cette affaire ?
En agissant ainsi, je manquerais à tous mes devoirs.
Je le regrette vivement, car il me semble, monsieur, que si j'avais quelques semaines devant moi, il me serait possible de vous prouver l'innocence de Mademoiselle Rumigny.
Je comprends parfaitement et j'apprécie le sentiment qui vous guide, mais ma conviction est tout autre. Nous autres, magistrats, monsieur, nous ne sommes pas des rêveurs. Nous allons droit au but, sans nous préoccuper des conséquences de nos actes. Nous n'obéissons qu'à notre conscience. » Ces mots avaient été prononcés d'un ton qui coupait court à tout entretien. William Doe le comprit. Plein de confiance dans ses déductions, imbu de son impeccabilité, M. de Fourmel était redevenu, même avec celui qui lui avait été si utile, le magistrat sec et tranchant que nous connaissons. « Monsieur, dit l'Américain en se levant, je n'insisterai pas davantage, et j'arrive au second motif de cette visite. Mes affaires me rappelant en Amérique, j'ai voulu, par déférence, vous prévenir de mon départ. Il me sera peut-être impossible, malgré tout mon désir, d'être de retour pour l'époque des débats. Je vous remercie, monsieur, de cette démarche. Votre déposition écrite sera lue à l'audience. » L'étranger salua et prit congé de M. de Fourmel. Quelques minutes après, il sonnait au second étage du numéro 11 de la rue Bonaparte, chez Maître Lachaud. Le célèbre avocat était chez lui, et libre, par hasard. William Doe fut immédiatement introduit dans ce cabinet dont les échos pourraient redire tant de mystérieux et terribles secrets. Il y resta longtemps, et quand il en sortit, sa physionomie si calme d'ordinaire exprimait la plus vive satisfaction. Le lendemain matin, Mademoiselle Rumigny recevait la lettre suivante, lettre décachetée par le greffe, ainsi que l'ordonnent les règlements. « Mademoiselle, il y a 2 mois, en vous quittant à la porte du dépôt de la préfecture de police, je vous ai dit « courage ». Aujourd'hui, je viens vous répéter le même mot « courage ». Si vous pensez devoir quelque reconnaissance à celui qui vous a sauvé, suivez mon conseil. Priez Maître Lachaud de se charger de votre défense. À votre premier appel, il se rendra près de vous. Bientôt, vous me reverrez. William Doe.
« Lui ? » murmura la prisonnière. « Lui, encore ? Lui dois-je de la reconnaissance ? La mort n'eût-elle pas été préférable à tout ce que je souffre ? Pourquoi me faire défendre ?»
Cependant, elle écrivit à l'illustre maître, et comme le lui avait affirmé l'Américain, Maître Lachaud accourut. Marguerite ne l'avait jamais vu, mais lorsqu'il parut sur le seuil de sa cellule, il lui sembla qu'elle le connaissait depuis longtemps, car, s'élançant au-devant de lui, elle s'écria en joignant ses mains amaigries
et avec un accent d'inexprimable gratitude. « Oh, merci, monsieur, merci d'être venu. »«
C'était mon devoir, mademoiselle, » répondit Maître Lachaud avec bonté.
Il avait conduit doucement sa cliente jusqu'au siège qu'elle avait quitté pour venir au-devant de lui, et s'était assis auprès d'elle. Il n'est pas un de nos lecteurs qui ne connaisse le plus grand avocat criminel de notre époque. Nous pourrions donc nous dispenser d'en esquisser le portrait. Mais c'est une telle bonne fortune pour un écrivain d'avoir à parler d'un maître dont le nom reste attaché à presque toutes les grandes causes judiciaires depuis 25 ans qu'on nous permettra de lui consacrer quelques lignes. Nous ne savons pas d'ailleurs de physionomie plus intéressante. Il faut avoir entendu Maître Lachaud plusieurs fois pour comprendre les formes multiples de son talent oratoire. Nul défenseur ne sait mieux employer avec le jury la langue qui lui convient. Peu lui importe alors de bien dire, dans le sens académique du mot. Il veut convaincre, et il sait que ce n'est pas avec des fleurs de rhétorique et des périphrases redondantes qu'on obtient ce résultat lorsqu'on parle à des hommes habitués par leur genre de vie à voir les choses simplement, telles qu'elles sont, et aussi à des auditeurs qui se révoltent instinctivement contre l'influence que peut avoir l'éloquence sur leur esprit. Avec Maître Lachaud, pas d'analyse subtile, pas de piège, des faits, rien que des faits, des déductions mathématiques et des preuves palpables. Et comme il sait émouvoir ensuite, quand après s'être adressé à la raison, il s'adresse au cœur des jurés. Quels accents irrésistibles! Comme il sait abandonner celui de ses juges qu'il voit persuadé pour lutter contre cet autre dont il devine l'indécision. C'est tout particulièrement dans cette circonstance que ce regard étrange qu'il possède devient pour lui une arme puissante. Cet œil fixe, immobile, semble une épée toujours droite au corps de son adversaire, pendant que de l'autre, il surveille et maintient ceux qu'il a déjà vaincus. On dirait un de ces vaillants duellistes du dernier siècle qui s'escrimait à la fois de la dague et de l'épée. Mais que Maître Lachaud est à défendre tout autre qu'un criminel, qu'il plaide devant les tribunaux civils ou la police correctionnelle, comme il s'élève alors au niveau des grands orateurs, comme il donne une libre carrière à son esprit charmant, comme ses lèvres ont des sourires ironiques, comme sa voix devient flexible, railleuse et mordante. Du reste, et pour terminer d'un seul mot, qui peint Maître Lachaud mieux que nous ne pourrions le faire, c'est l'avocat de notre époque qui a gagné le plus grand nombre de procès. Son inépuisable bienveillance ne lui permet pas cependant de toujours choisir ses causes. Mais la défense de Mademoiselle Rumigny était sans doute une de celles qui plaisait à son cœur et à son esprit, car il s'entretint longtemps avec la jeune femme. Lorsqu'il la quitta, Marguerite était plus calme. On pouvait déjà lire sur sa physionomie moins de résignation. On eût dit qu'elle ne désespérait plus. Maître Lachaud revint voir sa cliente 2 ou 3 fois par semaine. Et ses visites duraient déjà depuis un grand mois, lorsqu'une après-midi, au moment où elle s'attendait à voir son défenseur, la porte de sa cellule s'ouvrit pour livrer passage à un personnage dont le visage lui était inconnu et que le directeur de Saint-Lazare accompagnait. C'était l'huissier audiencier de la cour d'appel. Il venait signifier à la détenue son arrêt de renvoi devant la cour d'assises de la Seine. Le rapport de M. de Fourmel avait suivi cette filière judiciaire qui prouve le soin scrupuleux qui préside en France aux affaires criminelles. Après avoir été communiqué au procureur impérial et approuvé par lui, le rapport du juge d'instruction avait été remis au procureur général. Celui-ci avait désigné un de ses substituts pour l'examiner, et ce magistrat avait fait son réquisitoire. Puis, ce réquisitoire était revenu entre les mains du procureur impérial, et de là, dans le cabinet de M. Fourmel, qui avait rendu l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises des auteurs du crime de la rue Marloux. Quelques soins que prit Maître Lachaud pour armer Mademoiselle Rumigny contre les secousses qui lui étaient réservées, la malheureuse n'éprouva pas moins une émotion terrible à la lecture de cet acte dont il lui avait été laissé copie, et dans lequel elle était accusée de complicité dans l'assassinat de son père. À ce document était jointe une longue liste de témoins. Elle la parcourut machinalement, et l'un des noms qui s'y trouvait, celui d'Adolphe Morin, réveilla ses plus tristes souvenirs. Puis, remarquant que William Doe n'y figurait pas, elle murmura en baissant la tête. « S'il m'abandonne, pourquoi m'a-t-il sauvé ?» Quelques jours plus tard, le 5 juillet, le directeur de Saint-Lazare vint prévenir sa pensionnaire, à 9 heures du matin,
qu'elle eut à se préparer pour être conduite à la conciergerie, où le magistrat, chargé de présider les assises, devait l'interroger conformément à la loi. Mademoiselle Rumigny s'habilla, et une heure plus tard, elle montait, en compagnie d'une sœur et d'un gardien, dans une voiture fermée. Le directeur de Saint-Lazare avait facilement obtenu que la prisonnière fût dispensée de faire la route dans cet horrible véhicule qu'on a si pittoresquement surnommé « panier à salade ». À la conciergerie, on la fit immédiatement entrer dans le cabinet du directeur où l'attendait M. de Belval, président des assises pendant la première quinzaine de juillet. Ce magistrat était un des plus jeunes conseillers de la cour de Paris, où il jouissait à juste titre de la réputation d'un juriste consulte émérite, et d'un fort galant homme. Son impartialité était proverbiale. Pour lui, l'accusé n'était coupable qu'après le verdict du jury. Il l'interrogeait toujours sans dureté, et écoutait ses explications avec une patience extrême. C'était la personnification de la justice dans sa forme la plus complète. Monsieur de Belval reçut Mademoiselle Rumigny poliment, et, l'ayant invitée à s'asseoir auprès de la table où lui-même avait pris place, il lui dit « Mademoiselle, la loi m'ordonne de vous interroger avant votre comparution devant le jury. Je vais donc vous adresser plusieurs questions, mais je désire d'abord savoir, de vous, si vous avez l'intention de me répondre ou si vous devez persister dans le système que vous avez adopté durant le cours de l'instruction. » « Monsieur, répondit doucement l'accusé, je n'ai adopté aucun système. Je ne sais rien, je ne puis rien répondre. Je ne puis que protester de mon innocence. » Mademoiselle Rumigny, en effet, ne donna à M. de Belval que les courtes explications qu'elle avait fournies à M. de Fourmel. À l'égard de Balterini, elle refusa de nouveau de s'expliquer. « Je n'ai pas à insister davantage, dit le président, lorsqu'il fut convaincu de l'inutilité de ses efforts. Je ne vous demande pas si vous avez un défenseur, je sais que vous avez choisi Maître Lachaud. J'espère que d'ici à l'ouverture des débats, votre avocat parviendra à vous faire comprendre combien votre silence est dangereux pour vous-même. » Et M. de Belval ordonna au directeur de remettre l'accusé aux mains du gardien qui l'avait amené. 5 jours après, le 9 juillet, Mademoiselle Rumigny vit apparaître une seconde fois ce même huissier qui lui avait signifié son arrêt de renvoi. Il venait lui signifier cette fois son acte d'accusation. C'était le lendemain qu'elle devait comparaître en cour d'assises.